Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 mai 2026. Vous écoutez Méditons ensemble avec le révérend Jean-Claude Coffi. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude de notre thème ce monde que nous devons haïr. Nous serons dans la 9e partie de ce thème. Il y a quelques textes de référence en ouverture de notre méditation et nous commençons par Jacques, le chapitre 5 et le verset 1. Verset 1 à 6, il est écrit « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. » Luc, chapitre 12, verset 16 au verset 21, nous lisons. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?»« Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et joue et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, « Cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc 18, versets 18 à 25, il est écrit. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter ?» la vie éternelle. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point. Tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai dit, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit, « Il te manque encore une chose. » Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 à 12 et verset 17. Il est écrit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé en Galilée, Tite en Dalmatie. Enfin, 1 Jean, verset 5, chapitre 5, verset 19. 1 Jean, chapitre 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Aujourd'hui, nous abordons un autre aspect du monde. Il s'agit du tentacule symbolisé par les Anglo-Saxons. Le tentacule qui fait allusion à l'argent, à la monnaie, aux finances et à l'économie. Sans être un sujet tabou, l'argent reste un sujet très sensible, un sujet qui dérange à bien des égards. En effet, l'argent peut faire le bonheur autant qu'il peut faire le malheur. L'argent fédère autant qu'il divise. L'argent arrange autant qu'il dérange. L'argent attire autant qu'il est répugnant. Mais tout en disant cela, je m'empresse de relever que l'argent n'est pas un péché. D'ailleurs, rien de ce qui existe n'est un péché, puisque le péché n'est ni dans les choses ou les objets. Non, le péché est dans l'usage indécent qui y fait des choses. En effet, peu importe ce que l'on a en sa possession, le péché qui peut en découler dépend de l'exploitation inconvenante, abusive qu'on en fait. Par conséquent, l'argent n'a rien de mauvais. Au demeurant, notre Dieu n'a-t-il pas dit que l'or et l'argent lui appartiennent? Dans Agé 2, versets 6 à 8, il est écrit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. » Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Agé 2, versets 6 et 8. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, il va de soi que l'or et l'argent n'ont rien de mauvais et ne devraient pas poser de problème. Malheureusement, au fil de l'évolution et du développement de la civilisation humaine, l'argent est devenu un vrai problème, étant devenu le nerf de la guerre. L'égoïsme, la cupidité et l'avidité, transformés en systèmes économiques qui, bien qu'idéologiquement différents et parfois opposés, finissent par converger pour produire les mêmes conséquences. L'accumulation des richesses au détriment du bien-être et de la majeure partie de l'humanité. C'est ainsi que depuis des siècles, l'argent a été un moyen de contrôle des nations, tant et si bien qu'en réalité, ceux qui dirigent les nations ne sont pas ceux qu'on élit, mais ceux qui les financent. Henry Kissinger, homme politique américain, bien connu, a fait la déclaration suivante en 1973. Celui qui contrôle les réserves de nourriture contrôle les personnes. Celui qui contrôle l'énergie peut contrôler les continents. Celui qui contrôle l'argent contrôle le monde. L'argent tient le politique par le bout du nez et pousse parfois les personnes de bonne volonté à prendre le contre-pied du droit et de la légalité sans scrupule. Napoléon Bonaparte avait raison de dire que, entre guillemets, l'argent n'a pas de patrie. Les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Leur unique objectif est le gain. Fin de citation. Napoléon Bonaparte. Si aujourd'hui le monde entier gît sous la puissance du malin, c'est en grande partie à cause de l'amour de l'argent. De ce point de vue, nous ne pouvons que reconnaître la justesse de l'observation de Voltaire. Il dit, entre guillemets, « L'argent mène le monde par le bout du nez, même s'il n'a pas d'odeur. Le plus pressant pressoir qui soit au monde, l'argent. » Fin de citation. L'argent ou l'amour de l'argent a rendu la société méconnaissable. La course à l'enrichissement a balafré et défiguré notre société. Tout ce qui intéresse les gens, c'est l'argent. Vous avez déjà entendu dire à maintes reprises que les nations n'ont pas d'amis. Elles n'ont que des intérêts. Ces intérêts ne sont rien d'autre que l'argent. Il n'y aurait jamais eu d'esclavage, de colonisation, de conquête de nouveaux territoires, de guerre, si l'argent n'était pas le véritable but. Le but ultime poursuivi, les gens se servent de tout pour se faire de l'argent. Plus rien n'est gratuit. Tout le monde veut s'enrichir. Les individus, les familles, les nations. Et avec l'avènement des banques et plus tard des assurances, les moyens de spolier la masse n'ont fait que se multiplier. C'est d'autant plus vrai qu'une fois que l'argent est déposé à la banque ou chez un assureur, on ne peut plus en user comme on l'entend. Tout porte à croire que la banque devient la véritable propriétaire de cet argent. Avec les assureurs, c'est encore pire. Avec ces institutions, une fois notre argent dans leur coffre, son emploi nous échappe complètement. À l'opposé, et c'est le comble, c'est que lorsque, confronté à des difficultés, l'on sollicite sa banque, celle-ci n'intervient que pour nous endetter davantage. Les banquiers sont rarement cléments avec les clients, surtout quand ils deviennent insolvables à cause des coûts de la vie. Quelqu'un a dit, à juste titre, entre guillemets, « Une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand il pleut. » La partie du monde qui tient cette ligne, ce pôle du système luciférien, ce sont les anglo-saxons. Pour votre gouverne, The City, à Londres, est la véritable cheville ouvrière de l'économie mondiale, ayant comme épicentre les 13 grandes familles qui dirigent le monde, même si elles ne sont pas toutes aussi bien connues comme la famille Rockefeller et la famille Rothschild. À leur suite, les élites mondialistes dépouillent les richesses des individus et des peuples, les rendant de plus en plus pauvres pendant qu'elles, ces élites, s'enrichissent à outrance et sans scrupules. Ces élites contrôlent ce que l'on appelle les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI, n'ont jamais aidé une nation à devenir riche et prospère. Pire, ces institutions, au nom de leurs intérêts, ont définitivement hypothéqué la liberté et l'identité des nations et de leurs citoyens. L'amour de l'argent est véritablement la racine de tous les maux. Les gens battent campagne pour soi-disant jouer un rôle politique en faveur de la population, mais une fois élus, ils déroulent leur agenda caché, secret. Ainsi va notre monde. La seule façon pour nous d'être à l'abri de l'amour, de l'argent et de ses ravages, c'est de le voir non comme un maître, mais comme un serviteur. L'argent n'est pas mieux que l'homme. L'argent ne peut pas remplacer Dieu. L'argent répond à tout, dit Ecclésiaste. Certes, mais aucune possession n'est illimitée en soi et ne saurait par conséquent être substituée à Dieu. Si Dieu récompense nos efforts et nous introduit dans la prospérité financière, souvenons-nous que la richesse qui compte, c'est celle qui profite à Dieu et à son royaume. À retenir, le tentacule représenté par les anglo-saxons fait allusion à l'argent. C'est un tentacule qui influence la vie et la société des hommes comme nul autre. L'argent en soi n'est pas un péché. Ce qui est péché concernant l'argent, c'est l'amour qu'on lui voue et l'indécent usage qu'on en fait. Que Dieu nous équipe de sa sagesse, afin que tout ce qu'il nous permettra d'avoir comme argent soit majoritairement affecté aux besoins de son royaume. Consacrons-nous davantage au Seigneur en vue des exploits que nous sommes appelés à accomplir avec Dieu selon Psaume 60, verset 14. Excellente journée en Christ chez vous, Jésus. Signé votre serviteur, le docteur Jean-Claude Coffi, ce jeudi 7 mai 2026.